Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous en direct jusqu'à 20h50 avec toute l'équipe. Salut à tous les cinq.
Bonsoir,
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
Retour sur le calvaire des parents d'Alexia Daval depuis la disparition de leur fils. C'était il y a 4 ans, jour pour jour.
Mohamed, votre story du jour.
Un salarié qui tente de s'immoler par le feu, sauvé par des collègues. Je vous raconte son histoire ce soir.
Mathieu, dans le 5 sur 5 ce soir.
Une bataille navale dans la Manche. En bateau de pêche, je vous raconte les accords post-Brexit et les difficultés. Le ton monte et Paris prend des sanctions.
Pierre, dans votre œil ce soir.
Oh, nous irons à la recherche d'œuvres qui se cachent derrière d'autres œuvres en peinture et en musique.
Une mise en abîme proposée par Pierre Lescure. Patrick, votre édito ce soir.
Un projet de putsch, mais en France et avec un gourou complotiste très médaillé dans le rôle du général Tapioca.
Autant de sujets que l'on soumet à nos invités avant d'accueillir pour le dîner Pascal Obispo et Joe Star. Un dîner préparé par Jean-Christophe Rizet, qu'on connaît bien, le chef du restaurant étoilé qui plume la lune. Du bœuf ce soir au menu, cher Jean-Christophe.
Exactement, je vous emmène un petit peu sur mes terres en Bourgogne avec le bœuf de Charolles. AOP pour un faux filet qui sera mariné et juste servi mi-cuit.
Merci voilà. Beaucoup, merci. Cher chef. À tout à l'heure. Mais d'abord, l'édito de Patrick Cohen. Patrick, le journal Le Parisien révèle aujourd'hui un incroyable projet qui visait à renverser le pouvoir en place et à s'emparer de l'Élysée à sa tête, le gourou complotiste Rémi Daillet.
Oui, un ancien cadre du Modem de 55 ans, réfugié en Malaisie jusqu'à son extradition en France en juin dernier. On avait découvert son existence lors du rapt de la petite Mia dans les Vosges. On connaissait ses obsessions complotistes contre les masques, les vaccins, la 5G, les élites pédocriminelles, en tout cas qu'il croit toutes pédocriminelles, et les chemtrails, les grandes traînées blanches que laissent les avions dans le ciel derrière elles et que Daillet et d'autres voient comme des épandages de poison pour éliminer la population. Mais comme on ne se méfie jamais assez des illuminés, peut-être aurait-il fallu prendre au sérieux l'une de ces vidéos postées depuis la Malaisie.
Françaises et Français, je vous l'annonce, le renversement du gouvernement se fera dans l'ordre. Oui, j'ai décidé de prendre le pouvoir en France, de restaurer ce pays, de vous rendre vos libertés, de faire cesser cette destruction de tout, de rétablir notre pays tel qu'il n'aurait jamais dû cesser d'être.
Malaise en Malaisie, même si les promesses de putsch d'un moustachu du bout du monde paraissent à peine plus menaçantes qu'un tweet de Francis Lalanne. De même, le mail envoyé en avril dernier à plusieurs parlementaires évoquant le renversement populaire inéluctable d'un gouvernement génocidaire a fini à la corbeille. Mais l'enquête de ces derniers mois conduite par la DGSI a permis de découvrir l'existence d'une organisation clandestine de type paramilitaire dotée d'un plan d'action en vue d'un coup d'État.
C'était pas une opération de pieds nickelés.
Peut-être, mais ces pieds nickelés étaient nettement plus nombreux que le trio Philochard.
Ribouledingue.
Ribouledingue. Et
j'ai oublié le troisième.
Et moi aussi.
C, ça commence par un C.
Et c'est Ribouledingue, Philochard et Croquignol. Et Croquignol. Donc, ils étaient beaucoup plus nombreux que les pieds nickelés. Quelques 300 partisans recrutés, dont, écrit Le Parisien, beaucoup de policiers, de gendarmes et de militaires en activité. Et là, évidemment, on ne rit plus. On vient de passer du complotisme au terrorisme. À la tête de cette petite armée, la DGSI a identifié un ancien lieutenant-colonel de l'armée de terre chargé de recruter, de préparer et de commander ses troupes pour l'attaque du jour J.
En quoi consistait cette opération ?
Opération Azur était-elle baptisée ? L'idée était de mobiliser suffisamment de manifestants à Paris pour créer du désordre et de faire diversion pendant que d'autres groupes d'assaillants s'emparent de l'Élysée et d'autres points stratégiques, Assemblée nationale, Sénat, ministère des armées, ainsi qu'un grand média qui puisse diffuser le premier discours du nouveau président Rémi Daillet. Tout cela paraît délirant, mais les enquêteurs ont recueilli documents et témoignages qui laissent penser que tout cela a été sérieusement envisagé. Des plans, des modes d'emploi, des recettes pour fabriquer une bombe ont été trouvés. Ils ont trouvé aussi des listes de cibles potentielles, des listes de journalistes qui pourraient être hostiles avec leurs adresses personnelles. L'ex-futur président, pour l'heure, est en prison depuis plusieurs mois. Il est mis en examen depuis une semaine. Il a été extrait de sa prison pour cela, pour association de malfaiteurs terroristes criminels. 12 autres personnes sont pour l'instant poursuivies dans cette affaire.
Bonsoir Thomas Hichon.
Bonsoir.
Journaliste spécialiste des théories complotistes à la tête de l'émission Anti-Complot chaque vendredi à 17h sur LCI. Est-ce que vraiment ce projet qui peut paraître délirant et baroque aurait pu avoir une chance même minime d'aboutir, en tout cas qu'il y ait un passage à l'acte?
Ah, c'est très difficile d'imaginer si ce projet-là précisément aurait pu aboutir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les dernières années nous montrent un certain nombre d'exemples où on n'a pas été très loin de ce basculement-là. Je voudrais qu'on revienne tous au mois de décembre 2018, un jour de manifestation des Gilets jaunes dans lesquels un certain nombre d'illuminés dans le cortège décident de s'attaquer à l'Élysée. De nombreux ministres, de nombreux proches du président de la République expliquent depuis que ce jour-là, on n'est pas passé très loin d'une prise d'assaut du palais présidentiel. Et qu'est-ce qui aurait pu se passer derrière? Et il n'y a pas qu'en France que ce genre de choses est arrivé.
Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à la tête du Capitole. Ça, c'était à Washington en janvier dernier.
Effectivement, je crois qu'on est obligé de faire une forme de parallèle entre ceux qu'on a considérés longtemps aux États-Unis comme des hurluberlus du complotisme, des gens qui inondaient les pages Facebook, les vidéos YouTube, les groupes privés, hein, avec leur haine et leurs messages parfois délirants. Mais on le voit bien sur les images, ce délire, eh bien, il n'était pas que virtuel, il a basculé dans le monde réel.
L'affaire Daillet, sans doute plus grave même que la manifestation de fin 2018 aux abords de l'Élysée, puisque ça n'était pas planifié sans doute à l'époque, et les manifestants n'étaient pas armés. Là, on a des gens en armes, si je puis dire, en tout cas qui disposent d'armes, des militaires, des policiers, des gendarmes en activité, un ancien lieutenant-colonel avec potentiellement un arsenal et l'idée d'une planification.
Effectivement, je vous entendais pendant votre édito dire que, quelque part, on a un peu manqué de vigilance face à un certain nombre de ces acteurs du complotisme qui ont pris une énorme ampleur depuis ces dernières années. Je pense même d'ailleurs à quelqu'un qui n'est pas encore candidat, mais qui utilise tous ces arguments. Je pense à M. Zemmour, qui utilise toute cette rhétorique et qui pourrait lui aussi nous jouer un mauvais tour, d'une certaine manière. Je crois que moi, je vais vous faire une confidence totalement personnelle. Monsieur Daillet Wiedemann, il est arrivé sur mes radars à conspi. Moi, je passe mon temps à chercher tout ça. Il est arrivé il y a exactement un an, avec cette vidéo dont vous avez montré un extrait. Et moi, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, ce mec avec sa moustache et tout. Quelques mois plus tard, la vidéo avait fait plus d'1 million de vues sur YouTube. Il a fallu attendre qu'il y ait 1,3 million de vues cumulées sur la page de Rémi Daillet, que l'affaire Mia éclate, pour que YouTube décide qu'il y avait un problème. A laissé quelqu'un appeler au coup d'État dans notre pays
avant
sur sa plateforme.
Avant, rien n'avait été fait.
Rien n'avait été
donc
fait.
Donc YouTube a laissé prospérer Rémi Daillet comme d'autres complotistes de son acabit.
C'est-à-dire qu'auparavant, il était plutôt sur les obsessions dont j'ai parlé.
Exactement, mais malgré tout.
Liées à la crise sanitaire.
Oui, mais malgré tout.
Et dans sur les chemtrails et tout.
Bien entendu, mais dans ces vidéos, il y avait tout ça. Il y avait des appels au soulèvement, des appels au coup d'État. Il avait monté un site internet dans lequel les gens pouvaient s'inscrire afin de dire de quelles compétences ils disposaient pour cette nouvelle France qu'ils voulaient construire et ce coup d'État qu'ils voulaient mener. Donc qui sait faire des explosifs, qui sait fabriquer un site internet? Il avait créé une plateforme numérique.
Avec
sur laquelle...
une hyper visibilité numérique, c'est ce que relève la DGSI dans son rapport.
Mais oui, en fait, je crois que quelque part... Monsieur Daillet, comme tout un tas d'autres personnes aujourd'hui, ont bien compris que les plateformes numériques avaient une manière de fonctionner qui ne révélait pas le meilleur d'entre nous. On en a déjà discuté ensemble sur ce plateau, des algorithmes de Facebook, des algorithmes de YouTube. Eh bien, quelque part, c'est aussi comme ça que fonctionne le cerveau humain. Tout ce qui est le plus horrible nous attire plus que les très bonnes nouvelles. On préfère parler des trains qui arrivent en retard que des trains qui arrivent à l'heure, bien entendu. Et cette logique, qui était une logique humaine, eh bien, on avait essayé de construire, bon an, mal an, des sociétés qui luttaient contre ce biais de nos cerveaux. Depuis 15 ans, eh bien, les petits génies de la Silicon Valley ont découvert comment appuyer très fort sur ce trait de caractère et en tirer des éléments à la fois d'audience pour eux et surtout de gagner beaucoup d'argent. On va juste citer un exemple qui fait écho à ce qui a pu se passer en fait avec la radicalisation des gens qui ont suivi M. Daillet. Facebook a fait un test pour dire... en fait, les gens chez Facebook ne comprennent plus comment fonctionnent les algorithmes. Donc comment ils font? Ils créent des faux profils afin d'essayer de voir comment la plateforme réagit. Ils ont créé un profil de Trumpiste un petit peu excité. Il a fallu moins d'une semaine pour que ce profil de Trumpiste un peu excité soit radicalisé QAnon dans des groupes dans lesquels il imaginait que des pédophiles dirigeaient le monde en secret et qu'il fallait absolument lutter contre le vol de l'élection américaine. Donc je crois qu'on est quand même face à une situation dans laquelle nos démocraties sont secouées par ces plateformes qui refusent la transparence, qui refusent la régulation. Et à un moment, je crois qu'on ne peut plus l'accepter. Rémi Daillet nous faisait rire il y a un an, il nous fait peur aujourd'hui. On est à moins de 6 mois de l'élection présidentielle. Moi, je vous le dis, je suis très inquiet.
Et ce qui est intéressant, il faut le relever, c'est que l'obsession des élites qui sont toutes gagnées par la pédocriminalité, c'est l'un des axes, sinon l'axe principal du mouvement QAnon aux États-Unis.
Justement, Pierre.
Mais ouais.
Ben, dimanche, il y avait cette note qu'a publiée le journal du dimanche, la note du service central du renseignement territorial, le SCRT, qui était intitulée « Influence de la mouvance QAnon ». Est-ce qu'elle est vraiment maintenant, est-ce qu'elle a vraiment une empreinte en France forte, cette mouvance-là?
Cette mouvance,
avec cette signature-là.
Alors, cette mouvance et cette signature ont une empreinte au travers de tout un tas de chaînes qui existent sur les réseaux sociaux, que je ne citerai pas volontairement sur ce plateau, mais qui cumulent plusieurs dizaines de milliers de suiveurs qui vont écouter leur live. Il y a des groupes fermés sur tout un tas de plateformes de messagerie instantanée, donc on va parler de Telegram, de WhatsApp, hein, sur tous ces nouveaux moyens de diffuser du complotisme, et... Il se trouve que pour les besoins de mon émission sur LCI, je me suis un petit peu plongé dans les bas-fonds de TikTok. Vous savez, cette application qui plaît énormément aux jeunes. Eh bien, les QAnon sont extrêmement présents sur cette plateforme. Et donc, je crois qu'il faut bien comprendre que tout ça est en train de devenir une réalité et parfois avec des traits un peu surprenants. L'un des personnes qui porte le plus l'idée que des pédophiles satanistes dirigeraient notre monde en secret est un ancien confrère à nous, un homme qui s'appelle Carl Zero, qui a sorti la semaine dernière un pseudo-documentaire complotiste absolument mensonger qui diffuse sur Internet et qui diffuse sur YouTube et qui génère tout un tas de commentaires absolument démentiels. Je vais quand même me permettre de dire quelque chose, y compris pour tous ceux qui vont m'injurier en sortant de ce plateau sur les réseaux sociaux. Bien entendu que la pédophilie est un immense crime et que c'est quelque chose de très grave. Mais justement... Quelque chose d'aussi grave mérite mieux que les élucubrations de complotistes qui sont persuadés de voir, parce que c'est la base du mouvement QAnon, dans une pizzeria de Washington, un réseau pédophile caché dans le sous-sol, alors que cette pizzeria n'a même pas de sous-sol.
À vous entendre, dès qu'une plateforme se crée, elle est immédiatement investie par des complotistes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres Rémi Daillet avec la même force numérique actuellement sur la toile?
Alors, je pense que oui, et en fait, c'est assez intéressant de constater que durant toute cette année 2021, Rémi Daillet, il a été chahuté par les autres figures du complotisme. Parce que nous, on imagine ça comme un milieu homogène dans lequel tout le monde s'entendrait.
Non, il y a des luttes intestines.
Bien entendu. Et ils veulent tous être califes à la place du calife.
Ils ont des discours plus pacifiques la plupart du temps, les autres, non?
Ça dépend. Si on retourne dans ce que disait Alain Soral, dans ce qu'expliquait les données...
Moi, je pensais au Casas Novas, au Crève-Cœur, à tous ceux qui ont prospéré sur la crise sanitaire.
Écoutez, Monsieur Crève-Cœur, aujourd'hui, il a publié une vidéo dans laquelle il appelle tout simplement à pendre les journalistes. Donc, je ne suis pas absolument certain qu'on soit...
Que ce soit un discours plus pacifique. Mais il était chahuté. Pourquoi il était chahuté? Qu'est-ce qu'on lui reprochait?
En fait, on lui reprochait de ne pas être crédible. Et en même temps, je pense qu'on avait peur qu'il gagne en crédibilité. Si vous voulez, tous ces gens-là sont aussi des businessmen du complotiste. Quelque part, c'est leur précaré qu'ils essayent de défendre. Monsieur Daillet prétend défendre l'intérêt des Français.
Parce qu'il gagne de l'argent avec ses vidéos?
Monsieur Daillet, il avait monté, par exemple, un site internet dans lequel il incitait les gens à déscolariser leurs enfants. C'est là qu'on retrouve un petit peu l'essence des mouvements QAnon ou des mouvements One Nation, qui sont d'autres émanations sectaires qui ont pris beaucoup d'ampleur durant la pandémie. Lui, il gagne de l'argent avec tout ça. Il gagne de l'argent avec de la publicité sur ses sites internet. Si on reprend l'excellent article de Libération publié il y a une dizaine de jours sur le financement de la fachosphère, de la réinfosphère, comprenez que des publicités sur vos sites internet, ça fait gagner de l'argent. On a un vrai problème. Par exemple, l'Institut Pasteur fait des publicités sur les sites antivax. parce qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne et que, grosso modo, la publicité programmatique fait en sorte
que... Mais c'est pas volontaire.
C'est absolument pas volontaire. Ils n'ont pas envie de le faire. Mais ils vont cibler vous, Babette, ou vous, Patrick, avec des publicités. Et quand vous baladez sur Internet, quel que soit le site sur lequel vous allez, on va vous exposer à des publicités. Moi, je me suis amusé un peu à aller sur des sites complotistes. J'ai découvert des publicités du groupe Hertz, de Orange, de très, très grands groupes qui ne devraient pas financer ces contenus-là, mais qui ne le savent pas. On a exclu les contenus terroristes, bien entendu. On a exclu la pornographie. On a exclu tout un tas de choses avec des algorithmes. Donc, c'est possible de le faire. Hein, et donc, il suffirait peut-être d'arriver à établir cette liste. Mais peut-être qu'un jour, les dirigeants de notre pays vont s'emparer de ces questions, vont comprendre que ces questions numériques sont importantes et que ces plateformes ne peuvent pas se comporter comme dans une espèce de Far West dans lequel elles seraient le shérif et le gangster. Je crois qu'il y a un moment, il faut que quelqu'un reprenne le contrôle et il nous faut un arbitre là, dans ce terrain-là. Je ne sais pas si c'est carton jaune ou carton rouge, mais il faut au moins qu'on siffle.
Thomas Huchon, anti-complot, chaque vendredi à 17h sur LCI. Merci, merci d'être venu ce soir sur le plateau. Vous restez avec nous, on continue à commenter l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouhebsi. Salut Mohamed.
Salut Babette, salut à toutes et à tous.
H&M souffre des effets de la crise sanitaire et cherche à réduire ses coûts. De nombreux magasins dans le monde pourraient fermer, dont celui des Champs-Élysées, l'entrepôt du Bourget devra donc également fermer ses portes.
Une histoire bouleversante qui va parler à des milliers de travailleurs en difficulté. En France, mardi, sur le site de l'entrepôt de H&M au Bourget, en Seine-Saint-Denis, on a failli assister à un drame. Ces images peuvent être choquantes et nous précisons que nous avons eu l'accord de la victime pour les diffuser. Un salarié, employé depuis 18 ans, s'est aspergé de l'essence sur le visage et sur le corps, sur le parking du site, pour tenter de s'immoler par le feu. Ce délégué syndical de la plateforme logistique participait à une réunion avec la direction du site dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi. Un plan ouvert après l'annonce de la fermeture de l'entrepôt. Dépité des échanges avec sa direction, il a quitté la salle et s'est rendu à l'extérieur. C'est là que ce père de 39 ans a décidé de s'immoler par le feu.
Aujourd'hui, nous essayons tous ensemble de remonter la pente suite à ce drame qui a marqué les esprits plus que nécessaire. Beaucoup sont partis en dépression. Nos pensées sont toujours avec notre collègue qu'on a régulièrement au téléphone et qui nous rassure sur son état.
Ce salarié a quitté l'hôpital hier. Il est suivi par un psychologue. Il se repose chez lui. Mais cet acte isolé, dramatique, est symptomatique de l'état d'esprit de la centaine de salariés de H&M qui se sentent trahis. Les dépressions sont nombreuses au sein des employés du site du Bourget.
On a besoin de travail, c'est notre vie. H&M, elle ne s'est pas construite tout seule, on l'a construit, on l'a tous construit.
Je suis une mère isolée avec quatre enfants, qui sont deux sont dans des études supérieures. Donc qui dit études supérieures, il faut quand même financer. Alors si je me trouve sans travail, qu'est-ce que je fais ?
Les salariés ne demandent pas d'argent. Ils espèrent juste être reclassés pour conserver leurs emplois. Depuis le 7 octobre, ils sont tous en grève. Ils sont révoltés contre H&M, qui a déclaré des bénéfices en forte progression, dépassant les niveaux d'avant la pandémie du Covid-19. Le groupe H&M a par ailleurs annoncé son intention de fermer son mythique magasin des Champs-Élysées. Dans ces deux décisions, l'entreprise suédoise a indiqué vouloir réorienter son activité pour l'adapter aux ventes sur Internet. Patrick, cette situation est dramatique. Mais c'est assez paradoxal avec les chiffres du chômage parus hier qui sont assez bons.
Oui, mais c'est impossible, après un drame pareil, de tirer des généralités sur l'économie qui repart, le chômage qui a retrouvé son niveau d'avant-crise, les 2,5 millions d'embauches qu'il y a eu sur les trois derniers mois, qui est un niveau record depuis 20 ans, parce que évidemment ça ne retire rien aux situations dramatiques telles qu'on peut voir, qui résultent soit d'entreprises qui abusent, c'est peut-être le cas d'H&M, je ne connais pas le dossier, soit de cette transformation qui affecte une bonne partie de l'industrie textile, de la dématérialisation, du fait que voilà, les magasins ferment au profit de la distribution d'Internet. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Mohamed, à tout à l'heure pour la Story Média. Émilie, retour ce soir sur l'affaire Alexia Daval.
Oui, la France entière se rappelle de ses larmes, celle d'un mari à la recherche de son épouse Alexia Daval, disparue le 28 octobre 2017, il y a donc 4 ans, jour pour jour, alors qu'elle était partie faire un jogging. Ne la voyant pas revenir, son mari signale sa disparition à la police. L'enquête s'ouvre alors.
Où se trouve Alexia Daval ? Cette femme de 29 ans partie de son domicile hier matin pour un footing. Mais 3 heures plus tard, elle n'était toujours pas rentrée. Son mari a donc décidé d'alerter les gendarmes. Ni lui, ni ses parents ne s'expliquent cette disparition.
Si quelqu'un a des nouvelles, qu'il me fasse savoir au plus vite, qu'ils alertent la gendarmerie.
2 jours plus tard, le corps d'Alexia Daval sera retrouvé dans les bois, non loin de chez elle. Un corps calciné. L'autopsie révélera que la jeune femme a été violemment agressée, puis étranglée jusqu'à la mort. C'est donc le choc à Grès, sa ville, qu'il a vu grandir. Ses parents y tiennent un café-restaurant. Tout le monde ici connaît la famille. Une marche blanche est alors organisée et réunit des centaines de personnes. On y voit la détresse de toute une famille qui reste soudée dans l'épreuve et surtout ce jeune veuf éploré, abattu par la mort de son épouse. Il a même du mal à se tenir debout. Il est soutenu de chaque côté par les parents d'Alexia Daval. Une émotion qui frappe tout le pays.
On pense beaucoup à elle. Et c'est horrible ce qui lui est arrivé. On se met à sa place.
Ça fait peur à tout le monde. Quand on a des enfants, des petits-enfants, c'est triste.
J'espère qu'on va vite trouver le ou les assassins. Et que plus jamais ça arrive, plus jamais que ce soit agréé ailleurs, plus jamais.
La stupeur générale est à la hauteur de l'émotion nationale quand 2 mois plus tard, on apprend que Jonathan Daval a avoué avoir lui-même tué sa femme.
Cette enquête a permis de réunir un nombre suffisamment important d'éléments objectifs qui ont pu conduire à l'interpellation de Jonathan Daval, à sa présentation devant le juge d'instruction, à sa mise en examen pour meurtre sur conjoint, encourant la réclusion criminelle à perpétuité.
Et Jonathan Daval a finalement écopé de 25 ans de réclusion criminelle pour le meurtre d'Alexia.
Elle s'appelait Alexia, c'était notre fille, et cela fait 4 ans qu'elle a été tuée par celui qui lui avait promis de l'aimer. Depuis, nous ne vivons plus, nous survivons. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia Daval, racontent dans un livre leur histoire et leur combat pour la vérité. Ils sont ce soir nos invités. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir Isabelle Fouillot. Merci bonsoir à tous les deux de votre présence à l'occasion de ce livre qui sort aujourd'hui, 28 octobre 2021. C'est une date qui est douloureuse,
oui.
Cette date-là. C'est la date,
c'est la
tristement
date,
anniversaire de la disparition d'Alexia. Exact. Mais vous teniez à ce que ce livre sorte aujourd'hui pour lui rendre hommage.
Exact. Vous avez tout dit, c'est exactement ça. C'est pour lui rendre hommage. Et pour qu'elle se réapproprie sa vie de jeune fille, pour qu'on se réapproprie notre histoire aussi. Cette histoire qu'on a tellement galvaudée en disant des choses archi-fausses. Et c'est pour prouver que notre fille était une belle personne, que nous sommes des parents. On est juste victimes, on a juste perdu notre fille. On cherche dans le livre, quand je vois la photo, on cherche juste à savoir ce qui lui est arrivé.
Exactement.
Ce qui nous est arrivé.
À comprendre.
À comprendre.
Vous voulez vraiment connaître la vérité parce que c'est cette douleur-là que vous ne supportez plus, de devoir vivre sans vérité, de ne pas savoir aujourd'hui encore, 4 ans après les faits, pourquoi Jonathan Daval a tué Alexia. Et pourtant, vous lui avez fait face, tous les deux, courageusement, durant le procès. Vous êtes adressé à lui. Pourquoi tu as fait ça, Jonathan ? Je voulais fuir, je ne voulais plus de reproches. Mais ça méritait ça, insistez-vous. C'était une dispute, je l'aimais, je suis désolée pour tout. C'est seulement ça que tu as à me dire. C'est vraiment peu pour moi. Cette dispute qui a mal tourné, c'est sa seule ligne de défense et vous n'y croyez pas ? Ça ne vous satisfait pas ?
Non, c'est faux. Non, c'est faux. On sait très bien que tout ça, ce sont des mensonges, que c'est vraiment préparé. Alexia, ce soir-là, il y avait du Stilnox en elle. Ce qui veut dire qu'elle était déjà un peu latente. Elle était, c'est pour aller se coucher. On ne va pas demander un rapport sexuel quand on va se coucher. Hein. Donc, moi, je pense que c'était bien prémédité, bien sûr.
Pourquoi, oui. D'après vous ?
Mais parce que je pense qu'Alexia s'est bien rendue compte de qui elle avait en face de lui et qu'elle voulait s'en aller.
Et qu'il n'a pas supporté qu'elle veuille le quitter. Une partie de la vérité, les aveux de Jonathan Daval. C'est vous, Isabelle, qui les avez obtenus dans le bureau du juge d'instruction. Ça faisait presque un an que Jonathan était incarcéré, mais il contestait les faits, accusait son beau-frère, entre autres. Vous arrivez ce matin-là, à cette confrontation, avec une photo d'Alexia et de son chat, en vous disant que vous allez le faire craquer.
On m'avait mis la pression sur les épaules, quand même. Mais Grégory et Stéphanie, eux, ils avaient des éléments scientifiques. Mais moi, on n'avait pas tout ça. Et du coup, j'y suis allée sur l'affectif. Je ne sais faire que ça, l'affectif. Donc, j'y suis allée avec ma photo et il a craqué, j'y suis allée.
Il s'est jeté à vos pieds. Mmh. Oui, c'est moi. Vous le relevez, vous le prenez dans vos bras et vous pleurez avec lui. Vous lui dites même merci. Ce jour-là, vous avez remercié le meurtrier de votre fille.
Alors qu'on savait qu'on était innocents. C'est justement ce livre, c'est pour nous réapproprier la vraie histoire. Il a menti en nous accusant. Donc, nos vies ont été complètement dépouillées. Moi, je voyais ma vie à la télé. J'étais à la télé. Voilà, je ne comprenais pas. On se permettait de parler de nous. Sans nous interviewer, sans rien, et c'est horrible.
Vous le consolez dans le bureau du procureur, comme vous l'avez consolé, Jean-Pierre, un an plus tôt, le 30 octobre 2017, lorsque le corps de votre fille est retrouvé dans la forêt, pas loin de la maison où habitaient Alexia et Jonathan. Vous le serrez dans vos bras et vous allez le protéger de longs mois encore, parce que vous n'avez jamais douté de lui, non. Jusqu'au bout.
Effectivement, à aucun moment on a douté de Jonathan. Jusqu'au bout, on a voulu le réconforter, lui donner encore un peu plus d'amour, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, ça fait un peu mal. Mais ce qu'on voulait, c'est qu'il ne sombre pas.
Donc il fallait que vous soyez presque...
On oubliait notre douleur à nous pour pouvoir lui donner le bonheur. Entre parenthèses, le réconfort qu'on pouvait lui donner. Mais à aucun moment, on n'a jamais douté de sa culpabilité, de son innocence. Pardon.
Lui qui va émouvoir la France entière en larmes pour la marche blanche organisée le 5 novembre 2017.
Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène.
Vous décrivez le machiavélisme de Jonathan Daval, la façon dont, avec vous, il a choisi le cercueil d'Alexia, le tissu couleur parme, la pierre tombale. Vous dites, on était sous emprise, littéralement ?
Ah oui, bien sûr. On est sous emprise complète. Nous, on pense qu'à lui faire du bien, tout simplement. À aucun moment, on imagine... qu'il a quelque chose à voir dans le meurtre d'Alexia. Et quand on vient d'entendre, comme on vient de le faire, là, d'écouter ses paroles, Alexia était mon oxygène. Quand on sait ce qui s'est passé après, enfin, lui, il savait ce qu'il avait fait. Mais nous, on ne le savait pas. Quand on sait le final de l'histoire, qu'il l'a étranglé, dire qu'Alexia était mon oxygène, si ça, c'est pas poussé au vice au maximum, c'est des paroles qui nous restent là, nous tous les deux, qu'on n'a encore pas compris.
Ce qui vous ronge, c'est de ne pas savoir depuis quand Jonathan vous mentait, vous manipulait, lui que vous aviez accueilli, traité comme un fils, mais que vous ne connaissiez pas si bien que ça. Vous vous sentez presque coupable de ne pas avoir perçu sa duplicité ?
Bien sûr. C'est a posteriori qu'on le voit. Pendant les 3 mois, quand il était auprès de nous...
Après le meurtre de votre fille, il a vécu quotidiennement avec vous, trois mois.
Et il mettait des petits cailloux dans nos têtes pour nous faire vraiment croire qu'il était innocent et qu'il n'avait rien à voir avec ça. Il a même accusé un de son meilleur copain. Je veux dire, il est allé à dire que son copain d'enfance peut-être avait une aventure avec Alexia et que c'était lui. Et il m'appelait maman. Elle est, si ce n'est pas de la perversité, là, je ne sais pas ce que c'est.
Sa première manipulation, c'est justement d'avoir joué auprès de vous le rôle du gendre idéal, un rôle qu'il a joué à la perfection. Vous pensiez vraiment que c'était l'homme qu'il fallait pour votre fille?
Bah, moi, j'ai vu que Alexia l'aimait. Et lui, il avait toujours plein de mots doux. Il avait l'air très, très présent auprès d'elle. Et oui, je pensais que...
Oui, il était intentionné. Il
oui,
était...
oui, je pensais que c'était nous, le grand amour.
Quand on les voyait les deux, c'était du bonheur. Donc, on ne se faisait aucun souci.
C'est la raison pour laquelle vous avez eu tant de mal à ne plus le soutenir.
Voilà.
C'est dur de... Il a fallu qu'on le désaime.
Et ça, c'est
pas dur. Si ça se dit, mais c'est vrai en plus.
C'est vrai. Il y a un moment que vous racontez, c'est un autre moment qui vous a révolté. Le jour des aveux de Jonathan Daval, son avocat met en cause pour la première fois Alexia.
C'est un couple, effectivement, où malheureusement, l'un des conjoints était violent, mais ce n'est pas celui auquel on pense.
Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer, et ça a débordé.
Quand il tient ces propos-là, vous les entendez vous en direct, vous regardez la télévision, vous êtes dans votre salon. Comment vous réagissez ?
J'ai cru prendre... Premièrement, j'apprends que c'est mon gendre, le meurtrier. Alors qu'on doutait, on n'a jamais cru que c'était lui. Quand il était mis en garde à vue, on avait dit au gendarme, mais vous vous trompez, hein, c'est pas lui. Hein. Donc quand on apprend en direct que c'est lui, c'est dur à avaler.
Vous hurlez ?
Oui, oui, j'hurle. Quand il dit en même temps... que c'était mérité et que c'était à cause de ma fille qu'elle méritait ça, eh bien, là, j'ai cru que c'était la quatrième dimension. Je pensais que d'avoir perdu ma fille, c'était l'horreur. Mais là, je me suis rendu compte que les coups de poignard, ils allaient arriver, et on en a eu beaucoup de coups de poignard, oui.
Il n'y a pas que vous que ces propos ont choqué. La ministre Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, à l'époque, prend la défense de votre fille.
Elle m'a fait du bien.
Écoutez.
Disant ça, on légitime les féminicides, on légitime le fait que tous les trois jours, il y ait une femme qui soit tuée sous les coups de son conjoint. Elle avait une personnalité écrasante, elle était trop exigeante, elle s'habillait de façon trop aguicheuse. Il y a toujours une bonne excuse, ça suffit.
Ce sont des déclarations qui vous ont réconforté ?
Oui. Je pense que c'est elle qui m'a fait prendre conscience que... ce qui est arrivé à Alexia n'était pas juste, de toute façon, qu'elle ne méritait pas ça, et qu'on n'avait plus le droit, en 2017, de dire qu'on légitimait un meurtre. Et voilà,
vous n'en aviez pas conscience avant ?
Mais j'étais pas impactée par les féminicides avant. Je veux dire...
Mais là, oui, ça a été une conscience aussi collective. C'est et à ça. Partir de ce jour-là, les décomptes du féminisme ont commencé. Oui. Le visage d'Alexia a été quasiment le premier de ces visages de femmes qui tombaient sous le coup de leur compagnon.
Je n'avais jamais entendu auparavant de propos aussi durs envers ces femmes qui sont tuées par leur mari. Je pense que c'est la première fois, d'abord, que tout s'est fait en direct. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une garde à vue en direct. Moi, c'était la première fois. Hein. Je regardais après, je n'en ai toujours vu aucune. Hein. Donc c'était la première fois qu'on voyait ça en direct et là c'était horrible. Mais Marlène Schiappa, elle nous a donné la force.
La force de rentrer dans le combat.
Ouais.
Ce livre, vous en avez commencé la rédaction avec Thomas Chagnon, le producteur de 50 Minutes Inside, après le procès à l'issue duquel Jonathan Daval a été jugé et condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Dans la salle d'audience de la cour d'assises, vous l'avez fixé, Isabelle, une dernière fois avant de lui lancer « Adieu, Jonathan ». Est-ce que vous pourriez lui parler un jour, vous lui avez demandé, vous lui avez dit, écris-nous, dis-nous la vérité. Il ne l'a jamais fait.
Non. Bah, je me suis dit que c'est vrai qu'il y avait du monde. Et je me suis dit, peut-être qu'il n'arrive pas à sortir la vérité. Et je lui ai demandé d'écrire une lettre pour me dire la vérité. Mais non, je n'ai jamais rien reçu. Et au fil du temps, j'ai bien compris que de toute façon, ça ne m'intéressait pas parce que ça serait sans doute encore des mensonges.
Exactement. C'est ce que vous pensez, Jean-Pierre, aussi ?
Oui, exactement. Vous vous rendez compte, ce bonhomme-là, En 14 auditions à la gendarmerie, il donne 6 versions différentes, enregistrées. Comment on peut croire après tout ce qu'il va dire, peut-être en sortant de prison, ou c'est impossible, ce gars-là, c'est un menteur né, c'est un manipulateur, on ne peut plus le croire. Qu'il nous dise quoi que ce soit, on ne peut plus le croire. Nous, on a notre idée de la vérité, mais ce qu'il dira, lui, il a été condamné sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il a fait, mais nous, on sait très bien qu'il y a autre chose qu'on ne saura jamais.
Vous vivez toujours à Grès, là où votre fille est enterrée, et vous lui rendez visite tous les jours. C'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas quitter cette ville.
Oui, Alexia est là, et moi, je n'ai rien à me reprocher. Je suis bien dans ma ville de Grès. J'ai toutes mes attaches, mes amis, et ma famille, et je resterai à Grès, et j'irai à côté d'Alexia.
Merci beaucoup, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot. Alexia, notre fille, sort aujourd'hui chez Robert Laffont.
Si je peux ajouter aussi que c'est un très bel objet et que c'est aussi pour mes petits-enfants. Ils auront l'histoire de leur tata. Et pour moi, c'est très important. Ils auront la vérité de leur tata.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus
Merci.
Ce soir.
C'est nous qui vous remercions.
Sur le plateau,
Merci.
C'est à vous.
Merci.
C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Belliard.
Bonsoir Babette,
bonsoir Mathieu, à toutes et à tous. Au sommaire ce soir.
Bataille navale en chalutier. La France avait menacé, elle passe aux sanctions contre le Royaume-Uni. Deux navires déroutés la nuit dernière, les pêcheurs français sont ravis et remontés. Une initiative pour redonner confiance, estime de soi aux plus précaires et isolés. Visite du salon Emmaüs Solidarité. Et puis, oubliez la trottinette ou le vélo en mobilité douce, faites comme cet étudiant qui va en cours en parapente. C'est à la fin du 5 sur 5.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les Britanniques accusés de ne pas respecter l'accord post-Brexit, la France passe aux mesures de rétorsion.
Oui, deux navires britanniques sanctionnés et déroutés vers le port du Havre la nuit dernière. C'était bien sûr dans les matinales des deux côtés de la Manche.
Le ton monte entre Paris et Londres sur le dossier de la pêche.
The row between London and Paris over post-Brexit fishing rights has flared up.
Ce bras de fer qui se poursuit entre le Royaume-Uni et la France.
They've detained a British fishing boat for allegedly fishing illegally in French waters.
Les bateaux de nos voisins d'outre-Manche seront interdits de débarquer en France à partir du 2 novembre.
This one boat that's been seized could spark a bigger flare-up. So why is France doing this?
Alors pour info, pour le détail, il pêchait des Saint-Jacques chez nous. L'accord post-Brexit prévoit que les pêcheurs européens puissent continuer à travailler dans les eaux britanniques, mais il faut prouver qu'ils y travaillaient avant. Et Londres et Paris ne sont d'accord ni sur les justificatifs à fournir, ni sur le nombre de bateaux à autoriser. Côté gouvernement français, on justifie les sanctions de la nuit dernière. La menace était clairement énoncée. À défaut de progrès sur ce dossier, interdiction de débarquement de produits de la mer britannique en France.
Les choses sont claires et nous l'avons déjà dit, nous ne laisserons pas la Grande-Bretagne s'essuyer les pieds sur l'accord Brexit qui a été conclu.
Ce n'est pas la guerre, c'est un combat. Les Français et les pêcheurs ont des droits, il y a eu un accord de signer, nous devons faire appliquer cet accord. Nous avons des droits de pêche, nous devons les défendre et nous les défendons.
Et donc à partir du 2 novembre, c'est terminé. On dialoguera si les Britanniques veulent dialoguer ou d'ici là, mais on prend des mesures de rétorsion.
Notamment des mesures énergétiques qui ont trait, vous le savez, à la fourniture d'électricité pour les îles anglo-normandes.
Il faut parler le langage de la force, parce que je crains que malheureusement, ce gouvernement britannique-là ne comprenne que cela.
Alors vous l'entendez, on menace même l'alimentation électrique de l'île anglo-normande de Jersey. Un câble sous-marin part du territoire français. Côté, on va pas couper le courant, faut le dire clairement. Et l'idée, c'est plutôt d'augmenter
réduire
les prix,
production.
De réduire la production. Voilà. Côté anglais, on a voulu calmer le jeu ce matin, tout en parlant de mesures disproportionnées.
It is very disappointing. To see the comments that came from France yesterday. We believe these are disappointing and disproportionate and not what we'd expect from a close ally and partner. The measures being threatened do not appear to be compatible with the Trade and Cooperation Agreement or wider international law, and if carried through, will be met with an appropriate and calibrated response. Yeah.
Alors ça, c'est du côté du gouvernement. Vous avez entendu le ton. Les députés britanniques, eux, étaient plus remontés, plus durs aujourd'hui.
President Macron is facing very difficult elections next year, and therefore we should expect matters to get worse before they get better, and that history shows that this House and our great nation's interests are best served by standing up to the threats of little Napoleons clinging on to power.
Il va falloir suivre donc dans les semaines qui viennent le ton, les petits Napoléons. Alors le dossier est déjà suivi de très très près par les pêcheurs français, bien sûr, inquiets de ne plus pouvoir pêcher dans les eaux britanniques.
Satisfait que le gouvernement tape du poing sur la table.
C'est des bonnes mesures quand même. Je pense que ça va faire bouger un petit peu les Anglais quand même.
On a X pression à leur mettre sur les Anglais. Ils sont tout seuls. On est à plusieurs.
80% de leur pêche, elle est vendue en France ou en Europe.
Toute la côte anglaise, il y a plein de secteurs comme ça où nous sommes exclus, quoi.
Les bateaux qui ont la licence et qui peuvent aller pêcher dans les 6-12 000 sont harcelés quotidiennement par des pêcheurs anglais qui tournent autour des bateaux, qui les insultent, qui leur font des gestes obscènes, qui les menacent. Ce que je crains, c'est une escalade de violence.
Alors, il faut donc que ça se calme d'un côté. Et toutefois, le comité normand des pêches prévient que les pêcheurs vont durcir le ton localement.
Et c'est quand même l'une des conséquences du Brexit. Vous vous souvenez de ce bras de fer qui avait duré des semaines à la toute fin de la négociation, à la fin de l'an dernier. C'est le dernier truc qui a été négocié. Les Français disaient, s'il n'y a pas d'accord sur la pêche, on ne signe pas l'accord pour le Brexit. Et ça a été négocié très vite, sous la houlette de Michel Barnier.
Aujourd'hui, candidat à la primaire.
Voilà, et aujourd'hui, eh ben, les choses ne sont pas aussi claires qu'il aurait fallu. C'est la partie de l'accord qui a pris le plus de temps et qui finalement a été négociée le plus vite.
Un mot sur le Brexit.
Ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est qu'on vit les conséquences, encore une fois, de quelque chose qui était virtuel et qui est devenu réel. Parce que la campagne du Brexit, et avant même la victoire de Donald Trump, eh bien, le premier vrai scrutin dans un pays démocratique qui bascule à coup de fake news, à coup de réseaux sociaux et de Cambridge Analytica, ne les oublions pas, qui avait participé à l'élection de Donald Trump. Eh bien, je crois qu'on en paye aujourd'hui les pots cassés, et dans la voix de ce député britannique, on entend bien le ton totalement virulent qui est permis aussi par cette dégradation de nos débats liés aux réseaux sociaux.
Quand il accuse
Emmanuel Macron d'être
un petit Napoléon qui s'accroche au pouvoir.
On vient d'apprendre que Londres convoque l'ambassadrice de France sur place. Affaire à suivre, je vous le disais. Une autre remarque à un autre sujet. Puisqu'on s'intéresse au Parlement britannique ce soir, je voulais vous présenter Rishi Sunak. C'est le chancelier de l'échiquier, le ministre des Finances. Et vous allez voir qu'il y a des annonces qui passent mieux que d'autres.
Le fourth step I'm taking today will directly support the home of British community life for centuries, our pubs. Yeah. So I can announce today draft relief. Yeah. Draft relief will apply a new lower rate of duty on draft beer and cider. Yeah. And I cannot wait, Madam Deputy Speaker, for the opposition to accuse me tomorrow of beer barrel politics. Yeah.
Imaginez Bruno Le Maire qui paye sa tournée à l'Assemblée.
Ben oui, il a déjà beaucoup parlé de fromage, je me souviens, lors d'une commission. En France, le chômage baisse, mais la précarité augmente.
Oui, paradoxe, le chômage, la croissance, l'activité, il faut le dire, on manque aussi on a du mal à recruter dans certains secteurs. Mais d'abord, voilà, écoutez, il y a ceux qui voient le verre à moitié plein.
On a eu un nombre record d'embauches. On a une reprise économique qui est très dynamique. C'est une bonne nouvelle. On voit que la stratégie a porté ses fruits. C'est un record depuis 20 ans. La reprise est très dynamique, je le redis.
Et puis il y a le détail de ces chiffres aussi. D'abord, si on compte tous les chômeurs, y compris ceux qui ont une activité partielle, on est toujours au-dessus des niveaux d'avant Covid. Mais surtout, on sait que la pandémie s'est accompagnée d'une hausse de la pauvreté chez les étudiants, on en a parlé ici même, chez les travailleurs précaires, les indépendants. Hier, le collectif Les Morts de la Rue dévoilait son bilan, 587 morts de SDF en 2020, moyenne d'âge 48 ans. Iban Raïs et Anaïs Recouli ont rencontré Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité.
Il ne faut pas méconnaître les efforts qui ont été faits en matière de création de places. Le secteur associatif s'en est réjoui, mais on voit bien qu'il faut travailler dans la durée sur ce sujet-là. Donc ça évoque effectivement plein de difficultés. Vous avez sur ces 587 personnes, vous en avez 25% qui ont vécu 10 ans de temps d'errance.
Bruno Morel à la tête d'Emmaüs Solidarité, et on s'arrête justement chez eux ce soir. Écoutez bien, une initiative Emmaüs Espace Beauté et Bien-être. C'est à Paris, c'est une espèce de spa, un salon de beauté, une véritable boutique destinée aux plus précaires, souvent isolés aussi. Écoutez d'abord Michel, elle y travaille, elle nous explique son métier, la socio-esthétique.
À la base, on est esthéticienne diplômée d'État, et ensuite, on retourne à l'école pour se spécialiser auprès des personnes fragilisées. On a des cours de psychologie, des cours de psychiatrie, des cours de dermatologie. Le visage, c'est important parce que quand vous passez devant un miroir, eh bien, on voit le visage. Et le corps, on peut, beaucoup de personnes le cachent, leur corps, mais le visage, on ne peut pas le cacher.
Alors vous comprenez hein, qu'il ne s'agit pas uniquement d'un petit soin gratuit, d'une manucure, d'une coupe pas chère. C'est un véritable projet de fond, reprendre soin de soi pour reprendre confiance. On va retrouver Michel, mais aussi Paul et Daniel, démonstration en séance.
Et le fait de s'aimer, de se sentir bien, ça redonne une estime de soi.
Oui, ça redonne confiance en soi-même. Et ça donne espoir de vivre encore plus.
Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir ces services gratuits et avoir des produits aussi pour mes besoins personnels. Oui, j'ai une super peau. Mais je pense que c'est grâce au massage et à l'association, à Michel, vraiment.
Je pense que c'est important pour que les gens puissent se retrouver, parce que le corps est important, quoi. Je crois que l'image du corps est importante, et retrouver son corps permet aussi de retrouver son esprit.
Je suis très content. Quand je rentre ici, après le massage du visage, je me sens vraiment libéré. C'est comme je reprends une autre vie.
Alors ce salon a ouvert ses portes cet été. Depuis, une centaine de personnes y viennent chaque mois. 44% d'hommes.
La violence n'a pas sa place dans l'éducation d'un enfant. Un spot de prévention va le rappeler aux Français.
Oui, un spot pour rappeler que la loi interdit hein, depuis 2 ans ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Gifles, fessées, brimades, humiliations. Ce spot sera diffusé à partir du 2 novembre. Un scénario original, en voici un extrait.
Léo ! Léo !
Léo ? C'est très joli ce que t'as fait. Mais tu vois, le feutre, c'est très difficile à nettoyer sur la moquette et sur les murs. Regarde. Tu peux dessiner là-dessus.
Efficace plutôt, le scénario ce clip qu'on a raccourci un peu. Alors, voyage dans le temps à présent. Regardez ces petits, ces enfants qui parlent des châtiments corporels reçus. Là, on est dans les années 70.
Quand t'es passage, qu'est-ce qu'on te fait? On te donne une fessée?
Non, on fait une punition.
C'est-à-dire?
Je suis privé de télé ou privé de dessert. On donne une fessée.
C'est vrai?
Oui.
Est-ce que tu penses que tes parents ont raison ou qu'ils ont tort quand tu te donnes une fessée?
Ils ont tort.
On te donne jamais de fessée?
Non.
Pas de gifle?
Non.
Rien du tout? On ne te frappe jamais?
Non.
Quand tu auras des enfants, qu'est-ce que tu leur feras, toi?
Je leur donnerai des fessées.
On ne pourrait pas les battre, mais les punir de quelque chose qu'ils aiment bien, par exemple d'une émission à la télé ou alors d'autre chose.
Taper comme ça dessus, ça peut faire qu'aggraver les choses.
Alors, est-ce que les mentalités ont évolué? Ces mêmes enfants, eh bien, ils ont grandi, ils sont parfois même parents aujourd'hui, voire grands-parents. Camille Schmitt est allée en sonder.
Quand je faisais des bêtises, il y avait plusieurs avertissements et des fois, quand je dépassais les bornes, ça pouvait arriver que mes parents me mettent une fessée.
Quelquefois, une bonne fessée vaut mieux qu'une longue explication.
Au contraire, ça pouvait, selon les conditions dans lesquelles c'est administré, sérieusement traumatiser les enfants.
Ça peut arriver de donner une fessée parce que voilà, ça fait du bien à tout le monde.
Pour moi, ça m'a révolté, quoi. Et ça, je ne veux pas reproduire ça.
Mais après, il faut surtout expliquer à l'enfant pourquoi on s'est énervé, pourquoi il y a une fessée. Et voilà, et ne pas rester sur quelque chose de trop autoritaire.
Aujourd'hui, on sait que les violences éducatives et normalisées font beaucoup de mal. Et donc, je pense que c'est une bonne chose que ça soit, bah, du coup, interdit.
Alors, c'est prouvé aujourd'hui, hein, par rapport à ce que disait la jeune fille, il y a ce qu'il faut aujourd'hui de littérature scientifique. Ces gestes, ces comportements sur des enfants provoquent des difficultés à long terme. Apprentissage, baisse de l'estime de soi. On augmente même le risque vis-à-vis des addictions. Mais pour terminer, et comme je sais que vous aimez les archives, je vous emmène en 1981. Des journalistes d'Antenne 2 étaient allés, à la rencontre d'une vendeuse de martinet.
Elles se vendent de plus en plus.
En cette saison particulièrement?
Oui, le Père Noël doit en apporter un, en principe.
Qu'est-ce qu'ils disent les parents quand ils en achètent?
C'est pour leurs chiens, c'est jamais pour les gosses.
Ah, comme quoi, il y avait déjà une gêne hein, à l'achat du martinet, même à l'époque, qu'on ne trouve heureusement plus sous le sapin de nos jours.
Oui, c'est clair.
Elle ne gênait pas d'en vendre.
Non, elle, la dame, non.
On peut même remplacer les lanières.
Et même de plus en plus. C'est l'histoire d'un petit garçon qui appelle la police.
Oui, pour parler de ses jouets. Vous allez écouter ça. En étant en Nouvelle-Zélande, alors ce que vous allez entendre, c'est un enfant de 4 ans qui a appelé le numéro d'urgence de la police. Écoutez.
This is police. Where is the emergency?
Hi.
Hello.
Veg lady.
Yes, what's going on?
I'll tell you something.
You can tell me something.
I got some toys for you.
You got some toys for me?
Yep, can I even feed them?
Hello?
Hi there. We've received a 111 call. I'm guessing it was a mistake, child making a mistake there.
Alors
la police a rappelé qu'il ne faut pas encombrer les lignes des numéros d'urgence, mais que ce garçon était bien trop mignon pour ne pas diffuser l'enregistrement. L'opératrice a même appelé des patrouilles environnantes et des policiers sont allés voir les jouets du garçon soigneusement alignés. Il a eu droit à sa photo avec le chapeau de police. Il a même eu le droit, paraît-il, d'actionner le gyrophare. Je vous l'ai promis, ce garçon, alors on est en Haute-Savoie, on change radicalement de sujet, cet étudiant de l'IUT d'Annecy, on est à la montagne donc, arrivé à l'école en parapente. On va le voir, voilà. Alors, pas de bouchon, pas d'horaire de bus, pas de trottinette non plus. Et il faut bien le dire, un petit peu classe, l'arrivée sur le campus.
Mais c'est pas tous les matins, quand même.
On va surveiller. J'avais pas l'info sur les autres jours de la semaine, pour être très honnête avec
Merci
vous.
Merci d'enquêter.
On enquêtera.
Partons en hauteur, surtout.
Oui, on est à Annecy, c'est plus facile.
Oui, c'est ça, oui.
Plus facile qu'à à Montmartre, à Paris, c'est peut-être pas assez haut.
Une dernière image, apparemment, le 5 sur 5, c'est devenu une ménagerie.
Ah oui, c'est l'Arche de Noé, même, Babette. Là, on est au sommet de la mignonnerie. Quatre bébés lynx, ce sont bien des lynx, Patrick, une fois. Quatre bébés lynx filmés dans le Doubs par un agent de l'Office français de la biodiversité. Alors, au-delà de l'effet attendrissant de la nursery, c'est toujours une bonne nouvelle. Le lynx est une espèce protégée en France et en Europe, inscrit sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature.
Merci Mathieu. Bravo pour votre jolie ménagerie. C'est un couple rentré dans la légende.
C'est bien fini.
Le parapluie.
C'était joli.
Mais je veux faire quelque chose à moi.
Faudra travailler, mais pourquoi pas. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi.
Salut Pascal Obispo.
Bonsoir.
Bonsoir. On parle de France Gall et de Michel Berger, vous arrivez?
Ouais, bien sûr. Je vous explique ou pas?
Non.
Pas tout de suite.
On a l'explication, on est ravis de vous accueillir à l'occasion de ce nouvel album qui sort demain. France, du nom de celle qui fut l'épouse, la muse, l'interprète de Michel Berger. France Gall, à laquelle vous aviez écrit un album sur mesure. C'est une très belle histoire que vous nous racontez dans un instant. Mais c'est un plaisir inouï de les entendre chanter tous les deux.
Oui, c'est, ça fait partie des compositeurs français qui m'ont nourri. Voilà, il y en avait quelques-uns et c'est vrai que il est beaucoup plus complexe que prévu. Quand je suis rentré dans son répertoire, j'ai compris que finalement c'était un super bon. Voilà.
Un super bon qui a écrit une chanson, celle que vous préférez, je crois, Seras-tu là. Enfin, il n'en a pas écrit une, mais c'est celle que vous préférez.
Nos souvenirs.
Pourquoi c'est votre préféré, Pascal?
Je pense que c'est la plus émouvante. Il a beaucoup parlé de la mort, de l'absence. Il a beaucoup parlé de souffrance. Et c'est vrai que je pense que c'est une correspondance que j'ai avec lui, mais sans doute beaucoup d'artistes, de toute façon. Donc ça me touche. Et c'est vrai que ça fait partie de mon ADN.
Oui. Voilà. Et surtout, il s'adressait à Véronique Sanson par cette chanson qui lui a répondu, par cette magnifique chanson « Je serai là ». Vous poursuivez d'une certaine façon le dialogue que vous avez entamé avec France Gall en 1997 quand vous lui avez proposé ces titres qui sont devenus des tubes incroyables qu'elle n'a pas chantés, mais qui sont aujourd'hui réunis dans cet album qui porte son nom. On en parle avec vous, Pascal.
Pas de problème.
Il y aura aussi Le Vu, L'Œil de Pierre, la story média de Mohamed Bouefsi et les actualités de Bertrand, un programme chargé. Joe Star. Et Joe Star. Pour petit Didier Sabio.